d'avancer le
projet. Ah non, c'est un enregistrement que j'ai lancé. Non mais parce que la...
Désolé pour le parasite du coup.
Non, c'est juste les... l'émission radio des... Enfin, la... les Forges ont un podcast. C'est juste que personne ne sait parce que j'ai aucun fichier à mettre dessus, quoi. Le SoundCloud, ouais. Donc, voilà. Mais je me dis, jusqu'au 1er octobre, on peut dire que la nouvelle saison n'a pas commencé. Mais là, maintenant, grâce à toi, premier vrai livre de l'automne, la saison commence. On va peut-être commencer. C'est quoi le prénom de... J'ai oublié.
Pardon.
On lance,
alors je vous donne le top.
Bonsoir, nous sommes le jeudi 30 septembre 2021 à la librairie ici, boulevard Poissonnière à Paris. Et voilà, on m'entend enfin. Donc voilà, bonsoir, nous sommes le jeudi 30 septembre, il est 19h passé, nous sommes à la librairie ici, boulevard Poissonnière à Paris. C'est la veille du lancement du Mois de l'Imaginaire. En fait, c'est le lancement du Mois de l'Imaginaire. Avec un roman d'imaginaire, un roman d'aventure, un roman d'éducation, un roman de fantaisie, écrit par Claire Duvivier. Bonsoir Claire.
Bonsoir.
Ce roman qui sera demain dans toutes les librairies, c'est Citadin de demain, le premier tome de la trilogie Capitale du Nord, publié aux éditions aux Forges de Vulcain. Claire, vous la connaissez parce que elle a rencontré le succès critique et le succès auprès des lecteurs et des lectrices avec son premier roman Un long voyage, publié l'an dernier en 2020. Et pour nous accompagner, il y a aussi Guillaume Chamananidjian, l'auteur du Sang de la Cité, paru en avril de cette année. Le Sang de la Cité, c'est le premier volume de Capitale du Sud, qui est une autre trilogie située dans cet univers partagé qu'on appelle le cycle de la Tour de Garde. Tout d'abord, merci à tous les deux d'être là. Une petite chose aussi, c'est Guillaume, tu viens de gagner un prix qui est...
Le prix imaginaire de la 25e heure du Livre du Mans.
Eh ben, félicitations, Guillaume.
Merci.
Et on vient de lancer la réimpression de ton livre. Voilà, donc félicitations.
Ce qui est formidable.
Voilà. Merci aux lecteurs et aux lectrices.
Tout à fait.
Alors, je vais me tourner vers Claire. Claire, ton roman, c'est le premier roman d'une trilogie, mais c'est pas tout à fait le premier roman de cette hexalogie. Est-ce que les gens peuvent commencer la lecture du cycle de la Tour de Garde par ton roman ou non ?
Alors, moi, je n'aime pas trop parler d'hexalogie. Pour moi, c'est une double trilogie. Il y a deux trilogies qui sont Capitale du Sud et Capitale du Nord. Vous commencez par celle que vous voulez. Vous pouvez n'en lire qu'une des deux, mais c'est dommage. En travaillant sur les textes avec Guillaume, on a fait en sorte que ce soit aussi intéressant de les lire dans l'ordre de parution, c'est-à-dire Sud 1, Nord 1, Sud 2, Nord 2, etc., qui est une progression en fait dans la découverte de l'univers quand on les lit dans ce sens-là, mais on peut vraiment les lire de façon séparée.
D'accord. Alors maintenant on va rentrer dans le cœur du texte. Est-ce que tu peux rapidement nous résumer de quoi parle Capitale du Nord ?
Alors Capitale du Nord, c'est l'histoire de la narratrice, une jeune femme qui s'appelle Amalia. Qui est issue d'une famille noble, d'une caste un peu dirigeante, on va dire, dans une ville qui s'appelle De Haven, qui est située au nord. C'est une ville plutôt basée sur le commerce, en fait, qui tient son prestige du commerce, des sciences aussi. C'est un peu la ville de la raison, par opposition à d'autres villes sur le même continent, notamment une qui est plus la ville des histoires et des mythes, mais ça, c'est Guillaume qui racontera ça. Donc Amalia a deux amis, donc Irion qui est son fiancé parce qu'il est issu lui aussi d'une grande famille aristocratique, et Jonas qui lui n'est pas du tout issu, qui est un roturier en fait, donc c'est une amitié assez peu commune, et qui est née du fait qu'ils sont, ils étudient ensemble en fait. Parce que ce que c'est de particulier en rééducation, c'est que les parents d'Amalia ont décidé de donner à ses trois enfants une instruction basée entièrement sur les sciences, la foi dans le progrès, et surtout une instruction dont est absente complètement l'imagination. Donc tout ce qui est littérature, les arts, choses comme ça, on essaye de les tenir un peu éloignés de ça. Enfin, on voit bien que ça existe, mais concrètement, à part valeur marchande d'une peinture, par exemple, voilà, c'est... Après, c'est une éducation qui est quand même très complète. Ils ont aussi beaucoup... Enfin, c'est l'exercice physique. En fait, on les entraîne, on les dresse presque à devenir les parfaits citadins de demain, donc des dirigeants éclairés... au fait des sciences, de tous les progrès qu'il peut avoir, et qui vont accompagner la ville dans son progrès, en fait, dans la marche de son progrès.
Oui, alors en lisant le roman, je repensais à une idée de Platon qui disait que pour changer le monde, il faut changer les enfants, et il suggérait de retirer les enfants à leurs parents et les confier à des gardiens afin de les prémunir des mauvais héritages. En fait, les parents d'Amalia, est-ce qu'ils veulent la prémunir d'un héritage particulier ou de quelque chose quelles sont en fait les choses que Amalia, dont elle ne doit pas hériter, les choses que ses parents veulent qu'elle possède?
Bon, alors déjà, c'est pas, ils ne sont pas tout à fait séparés de leurs parents, parce que justement, c'est les parents qui sont un peu enfin, qui dirigent cette éducation particulière. Et effectivement, enfin, ce qu'on apprend au fur et à mesure dans le roman, c'est que les parents avaient dans l'idée, effectivement, de faire évoluer leur ville moralement, mentalement, sur certains sujets. Après, est-ce qu'ils vont y parvenir ? Est-ce qu'ils vont pas... Enfin, voilà, est-ce que c'est un échec ? C'est toujours difficile à dire. Enfin, un projet d'éducation comme ça qui s'étale sur des années, les parents, les gens eux-mêmes changent. Donc, par exemple, les parents de Lyrion ont beaucoup changé depuis le début de ce grand projet. Donc effectivement, il y a un côté un peu idéaliste dans ces parents qui veulent transformer leurs enfants, la mentalité de leurs enfants pour transformer leur ville. Et effectivement, les résultats peuvent être assez inattendus, mais du coup, c'est tout le sujet du roman, en fait.
Oui, c'est vrai. C'est en t'écoutant, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que souvent, je parle de ce roman en disant que c'est un roman d'éducation. Sauf qu'en fait, ce qu'on entend souvent par des romans d'éducation, c'est comment des adolescents passent à l'âge adulte. Et en fait, ton roman est un roman d'éducation en un sens beaucoup plus strict, parce que c'est à la fois un roman d'éducation, coming of age story à certains égards, et aussi un roman sur l'éducation, de réflexion sur l'éducation. Est-ce que c'est une caractérisation que tu acceptes ?
Ok.
Voilà. Ok, merci, vous avez été merveilleux. Voilà.
Je ne suis pas du tout une spécialiste des questions d'éducation. Enfin, je tiens à préciser, il n'y a pas de message ou quoi que ce soit. C'est juste, c'est un angle qui m'intéressait. C'est une idée que j'avais prise dans une pièce de théâtre de Marivaux, enfin, qui n'est pas tout à fait sur l'éducation, mais qui est cette idée de faire grandir des enfants avec une éducation particulière pour voir 20 ans après ce que ça donne, en fait. C'était plus ça, en fait, l'idée.
Alors là, tu m'ouvres toute une série de portes, voilà. Et, alors qu'on fait ça sans filet et sans préparation. Et d'ailleurs, on ne se connaît pas. C'est la première fois qu'on se rencontre. Voilà. Qui êtes-vous, monsieur ? Mais dans ton récit et dans ton roman, il y a un récit de tentative de transformation d'une ville. C'était aussi ce qu'il y avait dans le roman de Guillaume. Mais chez toi, la transformation est un projet qui... à une dimension intellectuelle idéaliste. Chez Guillaume, c'est beaucoup plus pragmatique. Et ça se reflète aussi dans le choix de vos références littéraires. C'est-à-dire que toi, il y a une sorte de réécriture de Marivaux, et chez Guillaume, il y a une sorte de réécriture d'Alexandre Dumas, plutôt. Alors, peut-être, Guillaume, est-ce que dans ton premier roman, qui était Le sang de la cité, on a un récit qui n'est pas vraiment un récit d'éducation, même s'il y a... C'est aussi un coming of age story de ton héros ?
Un petit peu, oui, parce qu'effectivement, même si ce n'est pas un récit d'éducation, où l'éducation serait un des points centraux du récit, ça reste quand même une question de fond, parce que tout simplement, l'éducation, bah déjà, le narrateur n'en a pas eu jusqu'à un certain âge. Au bout d'un moment, il a décidé, lui, il a fini par en avoir une, par pérégrinations diverses et variées, et au bout d'un moment, il a décidé lui-même de reprendre la sienne en main, et que la meilleure éducation qu'il pouvait avoir, ça pouvait être de se plonger dans les rues de sa cité. Et effectivement, en fait, ce qui est assez amusant, c'est que quand on a commencé à travailler chacun de notre côté sur le cycle de la tour de garde, On s'était fait très très peu de brief, entre guillemets, de world building entre Claire et moi. On s'était juste dit, bah, chacun garde la main sur sa ville. Et puis, on se fait lire un petit peu au fur et à mesure. On avait les grandes lignes du récit. On se fait lire au fur et à mesure. Et on s'est rendu compte, en fait, assez rapidement, que tous les deux, on était partis sur des sujets qui avaient trait à l'éducation, de près ou de loin. Et c'était, ça faisait partie, entre guillemets, des points communs qu'on s'est un peu découverts en se lisant.
Mais alors, en plus, dans vos textes, puisque tu reviens un peu sur la genèse de ce projet, je crois qu'il y a une dimension pour vous d'hommage à des villes existantes, mais en vous en entendant parler, il y a certains hommages, mais une volonté de les parfaire, de les reconstruire, de les transformer. Donc, est-ce que vous pouvez, d'une part, revenir tous les deux sur la genèse du projet, et après répondre à sa question, c'est pourquoi... alors qu'il y a cette admiration pour ces villes, vos romans sont tellement mus par le besoin de les détruire et de les reconstruire.
Je fais la genèse du projet. Bon, ok. Alors, la genèse du projet, en fait, c'est parti d'un voyage qu'on a fait en Toscane, mais il y a très très longtemps. Enfin, il y a très longtemps. Ça devait être en 2014 dans ces eaux-là.
Très longtemps,
oui. C'était le monde d'avant, en fait. Avant Covid, avant tout ça, le monde où on pouvait voyager. C'était en train, hein, mais donc on a fait un petit tour en Toscane et en fait on s'est arrêté quelques jours dans la ville de Sienne, qui est une ville absolument extraordinaire, où la ville est divisée en quartiers, chaque quartier a son animal symbolique. Dans chaque quartier, il y a une fontaine aux couleurs de l'animal, donc vous avez la tortue, vous avez le dauphin, vous avez, je sais plus ce qu'il y avait d'autre, mais il y en a une trentaine à peu près. Donc chaque quartier a sa fontaine et son église, et tous les ans, sur la place centrale de la ville, il y a une course de chevaux qui s'appelle le Palio, où chaque quartier s'affronte avec un champion qui fait le tour de la place à cheval. Ça dure quelque chose comme 2 minutes 15, et ça met la ville en émoi pendant un mois, à peu près. Donc on s'est dit, en sortant de là avec Claire, on a beaucoup déambulé dans ces rues, et en fait on s'est dit c'était une ville de fantaisie. C'est une ville moyenâgeuse, il y a des petites venelles étroites, il y a cette espèce d'ambiance complètement hallucinante au sein de la ville, etc. Donc en rentrant dans le train, on a un peu commencé à jeter les lignes de la tour de garde, en fait, sans savoir que ça serait la tour de garde. C'était juste un jeu qu'on a un peu... une espèce de petit jeu intellectuel, quoi. Et puis 3 ans après, en fait, on a fait la même chose dans la ville d'Amsterdam. On s'y est baladé, on s'y est un peu perdu, on a beaucoup marché. On marche beaucoup.
On s'est beaucoup perdu aussi.
Et en fait, pareil, en revenant dans le train, on a commencé à imaginer un petit peu ce que ça pourrait être. Et puis au fur et à mesure, on s'est dit, bah, tiens, comment est-ce qu'on pourrait faire pour opposer un peu les deux villes, faire quelque chose de avec deux romans qui se répondent. Ça nous a pris encore un peu de temps, hein, pour faire tout ça. Et puis, en 2018, on a fini par se lancer, on a écrit, et puis on a fini par être publié, de manière un peu inespérée. J'avais parlé de Platon, comme tu disais tout à l'heure, j'allais réagir.
Vas-y, attends, c'est la fin.
Je sais pas,
vas-y, je l'ai
non, mais c'est amusant, effectivement, que
vas-y,
tu sais...
comment faire, je sais pas comment mimer quelqu'un qui fait du scratch. Vas-y.
Non, mais effectivement, il y a un côté, parce que même si on s'est inspiré de ville, en tout cas, en ce qui me concerne, je suis parti effectivement de Sienne pour le sein de la cité, mais il y a un côté très ville de l'Antiquité, y compris de l'Antiquité gréco-romaine d'une manière générale. Il y a beaucoup de choses de la Rome antique dans la cité de Sienne, et il y a quelque chose aussi effectivement d'extrêmement platonicien dans la République, même si la question de l'éducation n'est pas confiée à des gardiens, on n'en est pas tout à fait là, mais il y a un côté utopique en fait dans la République de Platon, qui était déjà un des points de départ de la réflexion en fait sur la tour de garde. Donc je ne vais pas en dire plus parce que sinon je spoilerai la suite, mais voilà. Et je laisse Claire réagir.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, monsieur. Et non, c'est pour réagir sur l'idée de progrès. Tu disais effectivement ces villes qui se transforment, qui se modifient, qui se métamorphosent. Bon, moi déjà, j'aime beaucoup les romans sur les villes, en particulier quand elles se transforment et qu'elles se métamorphosent déjà.
Oui, je précise que Claire, tu es aussi connue comme éditrice aux éditions Asphalte, dont tu es la cofondatrice et une des deux éditrices. Et les éditions Asphalte sont connues pour de la littérature urbaine, étrangère et traduite, et aussi dans leur catalogue pour la collection Noire, qui est une des plus belles collections de mise en valeur des villes par la fiction et par la nouvelle.
Oui, c'est des recueils de nouvelles autour de villes et chaque recueil, chaque nouvelle est sur un quartier différent de la ville, donc il y a un côté d'exploration. Ouais, donc tout ce qui est vraiment exploration de la ville, moi ça m'intéresse, mais ce qui m'intéressait aussi là, s'agissant d'un setting de fantasy, on va dire pour aller vite, c'est souvent les villes de fantasy ou les pays de fantasy sont très basés sur une tradition qui est immuable et qu'il faut respecter. Et ce qui m'intéressait, c'était de penser la ville de fantasy en termes de progrès, ou même la société de fantasy en termes de progrès, en fait. C'est parce que ces sociétés, elles ne sont pas figées dans une espèce de temporalité éternelle. C'est comme n'importe quelle société, elle évolue, elle progresse, elle se modifie. Et c'est comme ça que j'ai pensé la ville de De Haven. C'est une ville effectivement qui est en pleine expansion. Donc c'est expliqué des prologues, c'est qu'une vingtaine d'années auparavant, il y a eu une première expansion géographique de la ville, donc qui s'est étendue, qui a avalé ses faubourgs, hein, et qui continue à réfléchir en termes d'aménagement urbain. Voilà. Donc c'est ça qui m'intéressait sous on va dire un prisme de fantasy, comment on pouvait penser ce genre de questions. Et notamment aussi avec du coup cette famille qui décide d'aller encore plus loin que le progrès qui a déjà cours dans la ville, en essayant non pas de, seulement de penser les métamorphoses et les modifications de la ville sur le plan spatial, mais aussi les modifications de ces citadins en fait, et du coup d'intégrer comme ça des modifications sociétales en transformant ses propres enfants, quoi. Donc vraiment toute l'idée de la création de cette ville, c'était de la centrer autour de l'idée de progrès, donc du coup, autant Guillaume est très Renaissance, notamment par tout ce qui est référence à l'Antiquité, moi c'est plus effectivement une Europe des Lumières, en fait, qui croit beaucoup en fait en la raison, en la science, en son pouvoir un peu salvateur.
Oui, c'est vrai que quand une des sources de la fantasy classique, c'est aussi le rapport à la fable, et donc avec une référence à des mondes qui sont atemporels, alors qu'effectivement... dans vos romans, même si vous avez des écritures et des esthétiques assez différentes, vous avez une sorte d'espace intellectuel commun. Au lieu d'avoir un rapport imaginaire à un monde imaginaire, comme dans une fable, vous avez un rapport réaliste à un monde imaginaire. Donc en fait, c'est, pour moi, je trouve que ces romans, au-delà du plaisir de lecture qu'on a, je pense que dans 50 ans, ça sera les archives les plus intéressantes sur ce que c'était que de vivre dans une ville, d'essayer de sortir d'une ville, qu'est-ce qu'on emporte de la ville avec nous, comment la ville nous transforme. Voilà, donc c'est effectivement, ça vous met dans une sorte de... Alors, je ne sais pas s'il y a une filiation de fantaisie réaliste. J'ai déjà lu des textes de fantaisie réaliste, mais effectivement, il y a quelque chose de la fantaisie réaliste chez vous. Mais est-ce que ça devient, toi, en tant qu'éditrice, de ton travail sur les mondes urbains dans la fiction contemporaine ?
Peut-être que d'une partie, c'est bien ça. Peut-être d'une autre, je dirais que c'est peut-être aussi que je n'ai pas de réelle, on va dire, expertise de lectrice de fantaisie. J'en lis, mais je ne suis pas une spécialiste du genre. Donc, du coup, effectivement... cette idée de fable éternelle ou de mythe, ça m'intéresse moins en fait. Aussi, je lis beaucoup de romans noirs, de romans sociaux, donc peut-être qu'effectivement, c'est des choses que j'ai injectées tout en restant dans ce monde imaginaire qui est, on va dire, très fantasy, très décorum de la fantasy, insérer un peu ces problématiques-là qui viennent d'autres lectures, d'autres champs. Quoi.
Oui, effectivement, quand en te lisant, ce qui est frappant, c'est que ce monde de fantasy, au lieu d'être stable, il est à la fois, il y a un moteur, c'est-à-dire les gens veulent faire évoluer les villes où ils vivent, et il y a aussi un danger extérieur dans chacun de vos livres, c'est-à-dire une forme de description qui arrive. Alors, je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Guillaume, tu parlais de l'Antiquité. Moi, en lisant vos romans, par moments, j'avais l'impression, et ça n'avait pas autant frappé quand j'avais commencé à les lire, mais maintenant, en écoutant parler de ces romans, ça me vient, c'est que d'une certaine façon, Guillaume, ta ville, c'est un peu Rome, c'est-à-dire la ville où la citoyenneté, c'est la concitoyenneté avec les autres, et donc le plus grand danger, c'est la guerre civile. Et toi, Claire, c'est plus l'Athènes, c'est-à-dire la citoyenneté n'est pas horizontale, mais verticale autour d'un idéal, et le danger, c'est un peu de perdre l'idéal. Donc dans les deux cas, il y a des formes de destruction et de corruption. Donc toi, la guerre civile, toi, la perte de l'idéal, tu souscris à cette description ? Quel est le danger dans ton roman ? Il y a quelque chose à la fois dans ton roman qui est bondissant, joyeux, et puis un danger qui lorgne, en fait.
Le danger est un petit peu sourd, entre guillemets, parce que c'est effectivement c'est un danger de guerre civile entre différents quartiers. Parce qu'il y a toujours donc c'est une cinquantaine de quartiers qui se battent, enfin qui se chamaillent tout le temps au sein de la ville. Et puis le quartier entre guillemets auquel appartient le narrateur, donc qui est le quartier de la Kawane dans le port de la ville, son dirigeant donc le duc décide de tracer un immense canal qui permettrait de relier le sud au nord, ce qui ce qui embête prodigieusement les clans qui sont au centre et qui se sont fait une spécialité de prendre leurs subsides dans chaque transaction commerciale. Donc en fait, le danger, il est sur la guerre civile, donc une guerre civile qui est juste induite par des conflits commerciaux. Il reste sourd parce qu'il n'y a pas de méchant à proprement parler. On sait qu'il y a un duc qui ordonne la mort des gens, mais à aucun moment dans ce premier tome on le voit. On voit juste des hommes de main ou des choses comme ça. Mais c'est le danger qui transparaît à ce moment-là. Et oui, comme tu dis, en fait, c'est cette république, enfin, ce qui n'est pas tout à fait une république, mais quand même pas loin, de représentants de différents quartiers qui sont les porte-parole du peuple, en fait, et qui... pendant des années, sont arrivés à une espèce de statu quo avec un certain nombre de conflits mineurs par-ci par-là, mais là, une guerre civile qui menace d'éclater réellement suite à de grands chambardements urbains.
Oui, pour la menace aussi. oui, alors en fait, côté de Haven, effectivement, c'est aussi sur des raisons un peu commerciales, on va dire, parce que la prospérité de la ville est fondée sur l'exploitation de colonies, dont on sait juste qu'elles sont outre-mer, donc en terre. Donc forcément, c'est toujours un peu long et pénible d'avoir des nouvelles, tout se déroule toujours assez lentement. Mais globalement, on sent qu'il y a une volonté d'autonomie, voire d'indépendance qui est en train de se faire jour de l'autre côté de l'océan. Et c'est quelque chose que les citadins de Haven vont voir de façon très lointaine et qui va leur arriver dessus sans qu'ils s'y attendent, en fait, parce que pour eux, c'est pas dans l'ordre des choses. Et c'est ça en fait qui va menacer l'équilibre de la ville, quoi. Donc à chaque fois on a des conflits d'ordre commerciaux, mais il y a autre chose que ces conflits là qui sont des conflits, on va dire, terrestres, humains, c'est qu'il y a effectivement un aspect aussi surnaturel de cette menace qui se dévoile un peu au fur et à mesure de l'intrigue, donc on va peut-être pas trop en dire. Juste dire qu'il y a aussi un truc occulte. Voilà,
Oui, ça reste de la fantasy. Il y a quand même un petit peu de surnaturel au milieu de tout ça.
Ça manque de dragons, hein, par contre.
Il n'y a pas de dragons.
Ça, on prévient les gens. On aurait peut-être fait un petit sticker pour leur dire que. Ah, il y a déjà des questions.
Il y a déjà des questions.
Avant que je l'oublie, tu as parlé de fantasy réaliste. Et je n'ai pas compris ce que tu voulais dire.
Ah, ce que de fantasy réaliste, ouais. C'est-à-dire, c'est des.
Un peu oxymorique.
Alors, non mais alors, fantaisie réaliste, je sais même pas ce que ça voudrait dire, en fait, hein, c'était de la prototype. Oui, d'accord, bon, ok, je l'ai dit.
Non, je pense qu'effectivement, ce que tu voulais dire, c'est qu'on est dans un monde imaginaire, effectivement, donc on répond un peu aux critères de la fantaisie pour ça, il y a de la magie, le monde est complètement imaginaire, même s'il y a des inspirations un peu réelles, mais réaliste dans le sens où, effectivement, on n'est pas dans le conte, dans le mythe, ou... et on est plus sur des enjeux, bah voilà, comme on disait, il y a pas mal d'enjeux économiques dedans, d'enjeux sociétaux, je sais pas si c'est ça que
vous avez compris.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que la résolution de conflits passe très peu par des boules de feu ou des duels, voilà. C'est surtout des boules de feu, quoi, il n'y en a vraiment
des
pas beaucoup.
Des boules de feu jamais, des duels parfois.
Voilà. Je reviens un peu en arrière, parce que ce qui est assez fantastique, c'est de se dire que ce monde qui est extrêmement vaste, extrêmement réaliste, parce qu'en fait, vous superposez plein de références à notre monde, mais qu'on ne devine jamais, qu'on sent intuitivement. Et en fait, sous la multiplication de ces références, en fait, on finit par trouver la densité de votre monde. Mais en fait, vous êtes parti juste d'une discussion ludique entre vous deux sur « et si on disait que… » et voilà, mais faites-nous rentrer dans l'intimité de la création, ça a commencé comment ?
On n'a jamais vraiment quitté cette dimension ludique, en fait. Ce qui nous étonne surtout, c'est que tu nous aies publié.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce qu'au début, quand vous parlez entre vous, vous avez d'emblée des personnages, vous imaginez des villes, vous modifiez la ville, à quoi ça ressemble, tout simplement ? Moi, alors, ça fait des années maintenant qu'on parle de ce projet, ça fait 2 ans, c'est ça ? 18 mois ?
Oui, c'est donc, ça.
2 ans, voilà. Et pourtant, en fait, vous avez complètement laissé à mon imagination de ce moment comme ça. Comment ça vient, voilà.
Enfin, je ne sais pas, David, on avait bu, enfin. Non, mais blague à part, enfin, oui, c'est plus... on était parti de ces deux villes qu'on avait visitées, de Sienne et Amsterdam, qu'on a un peu tordu dans tous les sens pour en faire des choses qui nous étaient plus propres. Et effectivement, l'idée, c'était d'avoir des personnages qui étaient un peu l'un le miroir de l'autre. Donc, voilà.
Et c'est à quel moment, par exemple, où vous passez... Alors, Guillaume, en fait, l'a dit de manière très générale, mais je voudrais quelque chose de plus précis. À quel moment vous passez de « on discute entre nous » à « on va écrire » ?
Au moment où on ne pouvait pas partir en vacances, en fait, de manière extrêmement concrète.
Non, non, mais on a quand même... Oui, on a commencé en 2018. Non, non, mais ça, blague à part. Effectivement, je pense que, je sais pas, il y a eu une espèce d'élan commun ou un moment où on s'est dit, tiens, on va repenser à... On a repensé un peu à tout ça. Je sais, honnêtement, c'était tellement latent que je saurais pas te dire quel est le moment exact où on s'est dit, hey, on va se mettre devant des ordinateurs et puis on va commencer à écrire tout ça. Je crois qu'on avait posé, ça s'est fait de manière extrêmement progressive, c'est-à-dire qu'on avait jeté quelques idées sur les villes uniquement au tout début. Les personnages, je crois qu'on en avait parlé un jour où on était en train de boire un coup, il me semble que c'était sur les quais, tous les deux. On avait vaguement inventé des personnages et puis pris quelques notes par-ci par-là. Puis un jour, en reprenant les notes, on s'est dit en fait, on a de quoi faire deux romans. En vrai, on avait de quoi en faire 6. Mais c'est, je pense que ça s'est étouffé comme ça. Hein. Le temps a été extrêmement long parce qu'entre 2014, l'année du voyage à Sienne, et 2018, vraiment, le moment où on s'est mis à écrire, bah, il s'est passé 4 ans de maturation, en fait. Hein. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter.
Non, mais avant de penser à vraiment l'écrire et en faire des romans, c'était plus se raconter des histoires aussi. Enfin voilà, on ne jouait plus à des jeux de rôle, qui était une activité qu'on pratiquait à une époque avec des copains, et puis la vie, les gens s'en vont.
Voilà.
Ça devient compliqué de se réunir pour des sessions de jeux de rôle.
On se fâche voilà. Parce qu'on refuse que quelqu'un refasse un dé de 6 ou un truc comme ça.
Voilà, c'est la vie quoi. Et effectivement, oui, c'est comme si on s'était créé un univers de jeux de rôle à nous pour... y camper des intrigues en fait, échanger là-dessus, et puis effectivement au bout d'un moment bah, on s'est dit qu'on avait assez de matériaux on va dire, pour en faire quelque chose, mais là encore on était un peu dans le ludique et dans le... on fait ça pour s'occuper quoi. Bon, je vous rassure, c'est plus ces versions-là, hein. On a retravaillé depuis, on n'est plus dans la private joke d'un couple qui s'ennuie, je vous rassure, mais l'idée c'est que...
Là tu mets la bande là.
Non quand même, mais...
Et Cyberman écrivait de la fantasy, voilà.
Tout est parti de ça, en fait, finalement, de cette espèce de jeu qu'on avait, de se raconter des histoires autour de ces deux villes qui se créaient au fur et à mesure, en plus, donc qui étaient un matériau extrêmement élastique, mouvant.
Mais cet instinct créatif initial, cette étincelle première de raconter quelque chose à un autre de manière ludique, c'est quelque chose, cette passion du récit, c'est quelque chose qui reste et qu'on sent dans le récit final. Il y a toujours dans vos deux récits quelque chose de très chaleureux, de très humain. Mais par exemple, quand vous écrivez, est-ce que votre lecteur idéal, c'est l'autre, tout simplement, celui qui construit l'autre trilogie ?
Non, je dirais dans les premiers jets, oui. Parce que les premiers jets, on se les fait dire, on fait évoluer le nôtre par rapport, donc oui, dans les premiers jets. Mais je pense que ce serait un peu ennuyeux d'avoir, pour un lecteur, de lire quelque chose qui lui est pas adressé. Après, tout l'enjeu, c'est après retravailler les textes pour que ça devienne une histoire à raconter à d'autres personnes, en fait. Quoi. Donc, nous, ça a été un peu de lisser tous les fils, les pistes qu'on avait lancées, qu'on n'a pas suivies finalement, donc les enlever, retravailler en termes d'enjeux narratifs pour que ce soit intéressant, même si on ne connaît pas, et surtout si on ne sait pas ce qui se passe dans la ville d'en face. Donc voilà, il y a le travail aussi pour en faire un roman à proprement parler, c'est-à-dire autre chose qu'une histoire à raconter, quoi.
Mais en plus, tout à l'heure, tu as mentionné... Quand tu mentionnes, alors c'est toi qui l'as mentionné en plus, le jeu de rôle, voilà. Quelque chose de logique et de ludique, pardon. Et le jeu de rôle, c'est déjà quelque chose qui est un jeu social en fait. Et ça me fait penser à quelque chose en lisant vos textes. C'est des textes d'une très grande maturité, d'une très grande maîtrise. Pour toi, Claire, c'est en quelque sorte ton premier roman, c'est ton premier roman ex aequo, en fait, d'une certaine façon. Essaye d'expliciter ça, et après, je reprends la parole. Dis, voilà.
Non, effectivement, j'ai écrit Un long voyage après avoir écrit le premier G, enfin, la première version de Citadin de demain. Mais Un long voyage a été publié avant.
Voilà. Donc, tu les as écrits, oui, c'est-à-dire Citadin de demain, c'est ton premier roman écrit, mais ton deuxième roman publié.
J'ai retravaillé quand
même. Oui, enfin, oui. Voilà, mais justement, en lisant vos textes et dans leur maturité, ça me fait penser à quelque chose, c'est que je me demande si d'une certaine façon, vous n'êtes pas les exemples d'une sorte de nouvelle génération qui serait un peu post-geek, c'est-à-dire une génération qui a fait du jeu de rôle, aime la bande dessinée, aime les jeux vidéo, mais a aussi intégré ça comme une culture classique, en fait. Est-ce que c'est une qualification que vous accepteriez ?
J'accepte. Non, mais juste pour nuancer aussi, c'est effectivement, je pense que tu dis quelque chose qui est assez juste dans mon cas, en tout cas, c'est que moi, mon goût pour la fantasy, le fait que j'écrive des romans de fantasy, ça m'est peu venu par la littérature de fantasy, en fait. Moi, j'ai pas été biberonnée à Tolkien, tout ça. Enfin, moi, la fantasy, ça m'est arrivé par le jeu de rôle, par le jeu vidéo surtout, par éventuellement le cinéma, les séries, des choses comme ça. Mais effectivement, par tout le substrat autour, et pas forcément par la littérature. Enfin, j'en ai lu un peu, mais j'ai jamais eu cette phase qu'on peut avoir de dévoreur compulsif de cycles de fantasy, alors que j'ai été dévoreuse compulsive d'Agatha Christie ou d'autres auteurs comme ça, quoi. Donc oui, effectivement, c'est pas tellement mes lectures de fantasy qui ont construit...
Alors tu n'es pas lectrice de fantasy, mais tu construis un vrai cycle, enfin vous construisez tous les deux un vrai cycle, comme en fantasy en fait, comme parfois en fantasy. Est-ce qu'on peut dire deux, trois mots sur le découpage, de comment vous êtes arrivé de certains textes, enfin de ces premiers jets à cette double trilogie ? J'ai bien compris qu'il faut plus dur exalogie.
Du découpage, bah, c'est-à-dire que j'allais répondre à la question précédente, mais en
fait, réponds, coup, là, je sais pas trop si réponds à la question précédente, on reviendra. Gardez bien.
D'accord. Non, juste pour compléter par rapport à ce que dit Claire, moi je suis issu, entre guillemets, de ce milieu geek. Enfin, j'ai lu énormément de fantasy quand j'étais jeune adulte. Je suis pas passé à autre chose. Je dis pas que j'ai abandonné la fantasy, mais j'ai quand même construit une autre. Enfin, j'ai quand même lu d'autres choses après. Et en fait, écrire de la fantasy, c'est un peu une espèce de retour aux sources, aux romans d'aventure et à la fantasy que moi j'aimais bien quand j'étais ado et jeune adulte. Et je pense que ce qui était justement intéressant, c'était d'y revenir en s'étant nourri d'autres choses. Et c'est ça qui, moi en tout cas, m'a beaucoup plu dans la rédaction. Je sais pas si ça se ressent aussi dans la lecture, mais voilà. Et pour la question, donc on revient sur la question du découpage. Est-ce que tu veux prendre la parole, Claire ?
Nous, quand on a soumis le projet à l'éditeur ici présent, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait une grosse masse qui correspondait aux deux premiers volumes de chaque trilogie, pour le dire vite. Hein. C'était un peu bordélique, c'était brouillon, il y avait plein de choses à revoir, mais effectivement, c'était ça. Et on était, dis-nous ce qu'on doit faire, on ne sait pas quoi faire, est-ce qu'on considère que c'est deux volumes, et enfin un diptyque, ou qu'est-ce qu'on fait, quoi. Tout ce qu'on savait, c'est que dans tous les cas, les deux histoires, elles devaient rester indépendantes. Il ne fallait pas qu'on s'aventure à intercaler des chapitres ou des choses comme ça. Ça n'aurait pas du tout marché. Mais effectivement, il a fallu réfléchir un peu à où est-ce qu'on se rendait réellement, quel était vraiment l'aboutissement des deux intrigues, hein, pour savoir comment on allait pouvoir la résoudre. Donc, un livre de plus, on s'est dit. Et couper ce qu'on avait déjà en deux. Et effectivement... Une fois qu'on était parti sur ce découpage, l'idée, ça a été de reprendre chaque arc, en fait, chaque tome, pour que ça soit également un roman indépendant, donc avec début, milieu, fin, avec des enjeux narratifs qui lui sont propres. Donc l'idée, c'est que ce sont des trilogies qui se lisent. C'est pas des histoires indépendantes dans le sens trois aventures différentes, c'est une seule aventure. Faut qu'on ait envie effectivement de lire la suite quand on en a fini un. C'était un peu l'idée, c'était de retrouver ce côté feuilleton qui nous plaisait bien, mais qu'il y ait une musique intérieure à chaque volume quand même, quoi. Que ce ne soit pas des moitiés de texte ou des quarts de texte.
Et justement, parce qu'on s'achemine vers la fin de notre émission, où en est l'écriture du cycle de la Tour de Garde ?
Le tome 2, les deux tomes 2, entre guillemets, sont quasi bouclés, dans le sens où il faut juste qu'on les revoie avec notre éditeur, qui nous dise non, ça va pas. Ça va pas.
Il faut rajouter des scènes de sexe et des poursuites en voiture.
Et des poursuites en voiture.
Et des dragons et des boules de feu.
Et des explosions. Donc voilà, il y a juste ce là fait. Et puis pour les tomes 3, donc les deux tomes 3 sont bouclés depuis une quinzaine de jours à peu près. Les premiers jets, voilà, sont bouclés depuis une quinzaine de jours. On a beaucoup de travail avec Claire parce que les deux intrigues se rejoignent plus dans les tomes 3. Donc il y a beaucoup de points de détail qu'il faut qu'on cale encore. Donc il y a pas mal de relectures, de restructurations et un peu de réécriture. Une fois que ce sera à peu près prêt, on te les soumettra, David. Et puis là, on rajoutera des boules de feu, des poursuites en voiture et des explosions.
Merci.
Et du sexe, pardon. J'ai failli oublier.
Dans cet ordre. Alors, on va se quitter pour ce soir. Et après la fin de notre émission, on prendra les questions de l'Assemblée ici réunie. Mais juste en une phrase, chacun... Si vous deviez donner envie à quelqu'un de lire vos romans, qu'est-ce que tu leur dirais, Claire ? Je suis sûr que c'est le genre de question que tu adores. Voilà.
C'est de la fantaisie réaliste. Hein.
Si tu veux lire de la fantaisie réaliste, lis Citadin de demain.
Si tu aimes Platon.
Si tu aimes Platon.
Non, honnêtement, je ne saurais pas quoi dire à une personne pour lui donner. Enfin, ça dépend de la personne, ça dépend. Enfin, il n'y a pas de taille unique, en fait, pour les recommandations, je trouve. Je m'en tire bien, là ?
Non, mais c'est une très bonne recommandation, en fait. Guillaume ?
Tout comme Claire.
Tout comme Claire, d'accord. Eh bien, donc, c'était le lancement de Citadin de demain, le deuxième roman de Claire Duvivier, aux éditions Forges de Lucain. Ce roman est le premier volume d'une trilogie, Capitale du Nord, qui répond à une autre trilogie, Capitale du Sud, de Guillaume Chamanin-Dijon, dont le premier volume, Le sang de la cité, est déjà disponible. Je vous remercie, nous allons arrêter cette émission, et par contre, les auteurs sont là pour répondre à vos questions. Merci.